que j'ai dit à Elon Musk. Vous voulez venir en Europe ? On va avoir des règles et les voilà.
Il faut que nous ayons un cloud souverain.
La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise.
Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution ? Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré.
Signaux faibles, le podcast de Siècle Digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Aujourd'hui, je ne vous fais pas attendre, voici tout de suite le programme. France Travail, anciennement Pôle emploi, touché par une cyberattaque, 43 millions de personnes sont potentiellement concernées. Nous ferons également le point sur la situation de TikTok aux États-Unis, quelle est la suite pour le réseau social. De retour en France après ça, avec Le Monde qui a conclu un accord avec OpenAI, le premier de ce type dans l'Hexagone. Dernière actualité, les États-Unis sont à la traîne sur les monnaies numériques, nous verrons pourquoi. Un épisode bien chargé aujourd'hui. Alors on ne tarde pas, c'est parti. Nouvelle cyberattaque de forte intensité contre un organisme français. France Travail, anciennement Pôle emploi, a annoncé ce mercredi avoir été victime d'une cyberattaque de grande ampleur. L'organisation a affirmé qu'il existe un risque de divulgation de données personnelles. Mais surtout, 43 millions de personnes sont potentiellement concernées. Alors, à quelles informations les cyberassaillants ont-ils eu accès ? Les hackers auraient atteint la base de données de France Travail. Ils auraient donc eu possiblement accès à de nombreuses données personnelles. Les voici. Nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresse mail et postale et numéro de téléphone. L'opérateur a également précisé un élément important, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés. Je cite France Travail, il n'existe donc aucun risque sur l'indemnisation. Si vous êtes actuellement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou que vous l'avez été ces 20 dernières années, vous êtes probablement concerné. Je vous le disais avant, les données personnelles de 43 millions de personnes ont potentiellement été volées. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été avertie et a tenu à préciser que le nombre de 43 millions de personnes n'est pas certain. Prudence donc avec ce chiffre. Et selon cybermalveillance.gouv.fr, l'attaque aurait eu lieu entre le 6 février et le 5 mars. Alors que s'est-il passé ? L'identité de plusieurs conseillers Cap Emploi, une branche de France Travail, aurait été usurpée. Ensuite, l'organisme a remarqué des requêtes suspectes, puis il a compris être la victime d'une cyberattaque. Si vous avez peur de faire partie des victimes, pas de panique. Si c'est bel et bien le cas, France Travail vous avertira dans les jours à venir. En attendant, la CNIL encourage tous les demandeurs d'emploi et personnes inscrites à être encore plus vigilants. En effet, soyez prudents par rapport aux messages et aux mails inconnus que vous pourriez recevoir. La CNIL a aussi rappelé qu'il ne faut pas communiquer ses informations personnelles par message ou au téléphone et ne pas ouvrir de liens ou de pièces jointes de manière irréfléchie. 2024 est décidément une année intense pour les Français d'un point de vue cyber. Ce n'est pas la première fois que de très nombreux Français sont touchés par de telles fuites massives de données cette année. Rien qu'en février, Almeris et Viamedis, opérateurs français du tiers payant, avaient été victimes de cyberattaques. 33 millions de personnes auraient été concernées. Faisons maintenant un point sur TikTok. Aux États-Unis, un projet de loi bipartisan suit son parcours législatif depuis la semaine dernière. Son objectif est simple, donner un délai de 6 mois à ByteDance, la maison mère de TikTok, pour se séparer du réseau social. Si rien n'est fait, alors TikTok sera tout simplement interdit. Depuis 2020 et l'administration Trump, Washington tente d'interdire TikTok ou de le séparer de ByteDance. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis ont peur que Pékin se serve de cette plateforme, qui est chinoise rappelons-le, pour espionner les Américains et faire de la propagande. Ils ont aussi peur que le gouvernement chinois soit en lien avec ByteDance et puisse accéder aux données des utilisateurs du pays de l'oncle Sam. Mais il ne faut pas oublier deux autres éléments. Les tensions entre les deux puissances sont immenses et TikTok fait très très mal aux réseaux sociaux américains. Voilà pourquoi ce projet de loi est né, une énième tentative, sauf que celle-ci pourrait être la bonne. Le mercredi 13 mars, la Chambre des représentants a voté en faveur du texte, pour la première fois. Une étape importante qui marque le début d'une toute nouvelle saga TikTok. Maintenant, quelle est la suite ? L'application ne risque pas d'y disparaître de sitôt. Le processus législatif n'est en fait qu'à ses débuts. Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat, puis signé par Joe Biden, le président. Sauf que le Sénat est partagé. Certains sénateurs républicains pourraient voter contre, après que Donald Trump se soit prononcé lui-même contre ce projet. Et puis le Sénat a également le pouvoir de modifier le texte. Ce dernier nomme explicitement TikTok et ByteDance et certains craignent que cet aspect viole une partie de la Constitution qui interdit au Congrès de cibler des entités spécifiques avec une législation. Mais admettons que le Sénat vote pour le texte, tel quel. Le président Biden a déjà dit qu'il le signera. Mais même s'il le fait, l'interdiction ne sera pas immédiate. Et oui, souvenez-vous, ByteDance a 6 mois pour vendre l'application. Si TikTok est racheté, alors elle ne sera pas interdite. Mais trouver quelqu'un ou une entité capable de mettre des dizaines de milliards de dollars pour s'offrir le réseau chinois pourrait être difficile, surtout en ce moment. Ensuite, le gouvernement chinois pourrait bloquer une telle vente. Et pour terminer, TikTok, entre autres, contestera probablement ce projet s'il devient officiellement une loi. Et ce, devant les tribunaux. C'est donc une bataille juridique qui s'annonce. Bataille à l'issue de laquelle un juge pourrait très bien décider de faire abandonner la loi. On l'a vu avec l'état du Montana l'année dernière. Il a adopté une loi pour interdire TikTok, mais le projet a été bloqué par un juge fédéral. C'est une première en France. Le média Le Monde a signé un accord avec OpenAI, la société derrière ChatGPT. Un accord pluriannuel. Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, et Jérôme Fenoglio, son directeur, l'ont annoncé dans les colonnes du quotidien. Mais alors, que prévoit ce partenariat? Il concerne l'entraînement des modèles d'OpenAI et les services d'IA de l'entreprise, comme ChatGPT. Je m'explique. OpenAI aura accès aux articles du Monde pour entraîner ses grands modèles de langage. ChatGPT pourra de son côté fournir des réponses aux utilisateurs basées sur les contenus du média. Des références aux articles seront mises en avant avec un logo et un lien hypertexte pour pouvoir renvoyer les internautes vers l'article utilisé. C'est aussi un gage de transparence. Je vous le disais, c'est le premier accord de ce genre dans l'Hexagone. À ce titre, il pourrait servir d'exemple pour d'autres médias, qui souhaiteraient également négocier avec OpenAI. Pour Louis Dreyfus et Jérôme Fenoglio, cet accord est bénéfique pour l'ensemble de la profession. Bénéfique, oui, mais il l'est avant tout pour Le Monde. On ne connaît pas le montant de l'accord, mais ça va représenter une nouvelle source de revenus, c'est sûr. D'autres médias en Allemagne ont récemment signé ce genre de deal avec OpenAI. Dans le cas du groupe Axel Springer, donc Bild ou encore Politico, le Financial Times évoquait une rémunération en dizaines de millions d'euros par an. Le Monde, de son côté, a juste évoqué une source significative de revenus supplémentaires pluriannuels qui intègre une quote-part au titre des droits voisins. Notons aussi que les salariés du journal pourront utiliser les technologies d'OpenAI pour des projets utilisant l'IA. En Espagne, Prisa, détenteur de El País, a également signé un accord avec la start-up américaine. Ce genre de signature répond à la problématique de l'utilisation des contenus des médias sans autorisation pour entraîner les différents modèles. Un point sujet à de fortes tensions entre fournisseurs d'IA et éditeurs de presse. Plusieurs médias, dont le New York Times, ont d'ailleurs déjà poursuivi OpenAI en justice à ce sujet. N'oublions pas aussi que pour OpenAI, c'est un premier pas vers l'AI Act, l'encadrement européen de l'intelligence artificielle. Ce dernier oblige à une plus grande transparence et encourage des négociations entre sociétés d'IA et sociétés créatrices de contenu. Place maintenant à un point sur les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. De nombreux pays en développent actuellement. Pour être plus précis, 134 pays représentant 98% de l'économie mondiale, quand même, explorent cette technologie. Plus de la moitié sont déjà en phase de développement avancé ou de lancement, selon une étude publiée jeudi par Atlantic Council. D'après ce groupe, tous les membres du G20 sont dans des phases avancées de développement de MNBC, exception faite de l'Argentine et des États-Unis. Et oui, l'oncle Sam semble malgré tout à la traîne. Les Américains progressent notamment sur le dollar numérique de gros, ou interbancaire. C'est une monnaie numérique émise par une banque centrale, utilisée uniquement pour les banques centrales, les banques commerciales et d'autres institutions financières pour régler des transactions entre elles. Mais les États-Unis travaillent aussi à un dollar numérique destiné au reste de la population. Mais ce dernier projet semble au point mort selon le rapport de Atlantic Council. Il est notamment retardé parce qu'il est devenu sujet à débat politique. D'un côté, Joe Biden, pour, et de l'autre, vous l'aurez deviné, Donald Trump, contre, évidemment. En attendant, les Européens, la Chine ou encore le Japon, eux, avancent. Le risque, c'est que ce retard américain impacte le marché du paiement international. Et ça ferait, dans une certaine mesure, diminuer l'influence financière mondiale des États-Unis. Autre risque pour ce pays aussi, que les normes internationales relatives au MNBC soient fixées sans lui ou presque. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et n'oubliez pas que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain.